LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Un tube, c'est quoi ? Oh, ça, je sais pas. J'ai jamais utilisé ce mot-là.
C'est quelque chose qui fait consensus. Ce qui est aimé par des gens qui ne se rencontreraient jamais dans la vie.
C'est une magie, déjà, entre un texte et une musique, et un arrangement derrière qui réussit, qui va servir une interprétation.
Un tube, c'est aussi un effet de surprise, quelque chose qu'on n'a jamais entendu.
Ouais, un tube, c'est quelque chose qui a marché. Donc ça peut aller d'Aznavour à Jordi, de 7 à 77.
Les tubes de ma vie. Un documentaire de Jérôme Sandelars et Agnès Catou. Troisième épisode, ma jeunesse politico-poétique. Au début des années 90, les CD ont remplacé les cassettes et les vinyles sur mes étagères. Marc Tuesca présente toujours le top 50, mais plus pour très longtemps. Mitterrand a été réélu, et moi, je balance entre Rimbaud et Le Che. Des ouvriers aux mains d'or sur la touche, à la frénésie de Conso, Souchon et Lavilliers dénoncent les dérives du libéralisme, et ça me parle. Keffieh noir et blanc autour du cou, Doc Martens aux pieds, j'ai 20 ans et j'en verrai bien tout balader. Étudiant en ciné à la fac de Saint-Denis, je quitte les beaux quartiers pour la cité. Solar et Zebda m'ouvrent à une autre réalité, un monde en marge, mais bouillonnant de créativité. Attiré par les étoiles, j'ai soif d'idéal. De Bouche de là à Juste quelqu'un de bien, en passant par Foule sentimentale, Tomber la chemise et Les mains d'or, on avance point levé et pied au plancher dans la bande-son de ma jeunesse. Au micro, le bien nommé MC, maître de cérémonie, Solar, ouvre la danse et choisit la cadence. 5, 4, 3, 2, 1, tempo.
Alors Bouche de là a été écrite au 8e étage de la cité Toi et Joie à Villeneuve-Saint-Georges, un samedi, chez un DJ qui s'appelle DJ Cursor. Il a été écrit en 20 minutes. En gros, c'était un peu comme des petites histoires marrantes.
Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte ma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
MC Solar, viens là que je te donne du réconfort.
J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc, elle m'a fait bouge de là.
Donc c'est quelque chose qui est extrêmement spontané. J'avais appris à l'école le roman picaresque où il arrive des tas d'aventures à des gens. Et c'est ce que j'ai à peu près appliqué, sans le savoir. C'est-à-dire qu'on mettait un lieu, une situation. Il y avait l'idée d'évolution. Et puis, j'avais envie de rigoler avec ça.
Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se porte ? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là.
On avait l'habitude, dans notre quartier, le quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges, d'essayer de créer des expressions qu'on allait colporter. Et puis on essayait de le faire revenir. Ça, c'était un truc volontaire, lancer des expressions. Alors les rockers, ça leur faisait penser à Move On. On peut leur approcher de l'esbéton de Renault aussi, parce qu'il y a des situations avec de l'humour. En fait, elle est super simple, cette expression, et en tout cas, elle donne une envie de... Allez, il faut que ça change.
Bouge de là. Bon. Bouge de là.
Claude MC Solar, comment il est né ce goût de l'écriture ?
Le goût de l'écriture, il est venu assez tard, hein, vers la classe de seconde, première. C'est vrai qu'avant, j'aimais le football, j'aimais sortir, mais j'étais vraiment pas dans l'écriture. Et puis à un moment donné, je crois qu'il a fallu devenir sérieux. Et quand je suis allé en seconde, je crois qu'il y avait certains profs qui nous ont parlé de poétique, de texte, avec des explications. Et en même temps, j'étais dans le rap, j'aimais le rock alternatif. Et donc, c'est là que l'envie d'écriture est arrivée.
J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants, je t'aime un peu beaucoup, à la folie, passionnément.
Comment vous le qualifieriez, votre rap, MC Solar ?
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit poétique. Moi, je le verrais pataphysicien. Parce que j'aime bien les incongruités et les inventions qui viennent de nulle part, métaphysique. Il y a cette dimension-là. Mais sinon, s'il y a les figures imposées comme en patinage artistique, je peux être un rappeur normal. je peux faire les flows bubble style. Le bubble style, c'est un style qui vient du ragamuffin, où ça se répète. L'homme, l'homme, que l'on nomme, l'homme, tout simplement, sola, la, rem, si. Ça veut dire l'homme que l'on appelle sola, rem, si. C'est des figures qu'on apprend comme ça avec différentes personnes. Mais il y a quand même quelque chose pour le répéter. C'est la marche. C'est-à-dire que souvent, je ratais le bus pour aller au lycée. Et donc, j'avais 17 minutes de marche pour l'atteindre. Et pendant ces 17 minutes, quand tu penses à quelque chose, tu le polis, tu l'améliores et t'arrives et c'est top. Ça, c'est l'époque pré-Uber, pré-Uber. Beaucoup de choses sont arrivées en marchant. Caroline, l'as de trèfle qui pique ton cœur.
L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline.
C'est en marchant du quartier nord jusqu'à la tour numéro 3. Tu as le sentiment de quelque chose que tu peux intégrer dans ton rap, de là à là, tic, tic, avec les pas, les idées arrivent, elles ont aussi un rythme. Ça, c'est vraiment essentiel. Conseil pour quelqu'un qui a envie d'écrire, du rap ou autre chose, ne pas passer son permis de conduire.
Est-ce que vous avez le sentiment de vous inscrire dans une certaine tradition de la chanson française en tant que rappeur ?
Un des biographes belges de Gainsbourg, qui un jour me dit, ça ressemble à Gainsbourg, et puis il m'a donné l'exemple, l'emmagasine des magazines, il m'a dit en dépliant des dépliants, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas fait exprès. Il m'en a trouvé 3 ou 4 comme ça, mais aussi c'était de ce que j'écoutais dans mon adolescence, j'ai écouté donc Peter Tosh, Gainsbourg, du reggae, et puisque j'arrivais à chantonner, ce que j'ai jamais chanté, bah, c'était toujours des gens qui parlent, toujours des gens où c'est la voix. Et cette façon de parler au-dessus, voilà, le talk-over. Et ben, à partir du moment où tu penses talk-over plutôt que faire les choses clivant du parler rap, ce qu'on appelle le yo, yo, et ben, tu parles à peu près naturellement. Louis Chédid, il avait une chanson qui raconte un film. Le même principe que Victime de la mode. La 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 la, tel est le nom du film.
Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Alors la caméra zoom arrière et je retourne dans l'hélicoptère. C'était les dernières phrases du truc. Peut-être qu'inconsciemment, je me suis peut-être inspiré de cette superbe chanson de Louis Chédid, puisque le cheminement de Victime de la mode, c'est aussi un truc de film. Ça commence par clap prise 1.
Clap prise 1, vision panoramique. Une caméra avance gros plan sur Dominique.
C'est pas volontaire, mais ça me donnait une particularité.
Vous aimez le foot, vous aimez le cinéma, vous aimez la presse. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration pour vous ?
Effectivement, je lisais tous les journaux. Pour ma part, c'est s'intéresser au monde et pas le compartimenter.
Vous ouvrez des tiroirs et hop, vous prenez des choses à droite, à gauche.
Oui, les convoquer au moment où on écrit. C'est-à-dire que, voilà, là ici, t'as ce que t'as lu à tel endroit. Là ici, c'est les films que t'as vus. Là ici, t'as Georges Perec et le phénomène d'accumulation que je lis dans Caroline et que je vois dans Nouveau Esther ou dans plein de choses. Très souvent, avant l'arrivée du haut débit, je faisais des phrases où à l'intérieur, il y avait un tiroir pour que la personne aille chercher. Ça, c'était dans les 3 premiers albums. Avec une volonté quand même, c'était pour que mes nièces, elles aient le bac. Parce que comme elles écoutaient du rap, tu leur mettais le dormeur Duval à tel endroit, quand tu dis gare aux gorilles, hop, ça va permettre aux gens d'aller chercher une marque d'armes de poing.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington.
En fait, c'est ça, mettre des choses en sachant que la personne va ou demander ou se documenter. Oh, c'est génial.
On dit gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les 7 mercenaires n'ont pas l'once d'un combat.
Et c'est plus possible parce que maintenant, si je dis acide désoxyribonucléique, les gens ils vont aller sur internet et 2 secondes après ils vont dire ouais, bah, c'est l'ADN. Tu vois. Alors qu'avant, les choses prenaient du temps et tout, c'était bien.
Le nouveau western moderne.
Et vous avez un flow qui est vraiment très personnel, MC Solar. D'ailleurs, vous détoniez à l'époque avec les autres rappeurs comme IAM ou comme notamment NTM ou Assassin, ou quelque chose de très doux. On vous a souvent comparé à un félin.
On avait tous les mêmes références de rap américain. Bon, je pouvais pas prendre une grosse voix ou faire le style agressif parce que je pesais 66 kilos. Mmh. Donc, il y avait une certaine cohérence. C'est-à-dire que tu écris ce que tu es, quoi. Bon, j'étais maigre, j'étais speed. Mais j'avais un style avec la voix, comme ça. Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. C'est côté reggae. J'étais cool, assis sur un banc. C'était au printemps. Voilà, c'est ça, c'est toutes les influences. Leonard Cohen, reggae, Gainsbourg. Le vent souffle, en Arizona. Ok. Bon, je bouge pas trop les bras, parce que ça rentre dans le truc. Mais en studio, quelquefois, quand il y a des phases assez difficiles que j'ai créées, je suis obligé quand même de bouger pour rythmer.
Là, vous mettez votre main en forme de flingue, comme si vous aviez un revolver à la main.
Ouais, ouais. C'est juste pour que la voix, elle pulse. Bim, 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 bim. Alors avant, je faisais le bruit de la mitraillette, balançais des rafales de balles vocales. Pa, 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 pa. Bien faire claquer les pieds. Voilà, ça crée du mouvement quand on écoute. Et pendant toutes ces périodes des premiers albums, une de nos, pas difficultés, mais choix, c'était d'aller vers des choses musicales, jazz ou soul. Mais à partir de là, tu peux pas crier. Tu es obligé de suivre le swing qu'il y a. Donc, quelque chose que j'ai sciemment fait, un pour montrer que le rap c'était pas ce fameux terme une sous-culture, c'était d'employer un vocabulaire normal, poétique, pas de slang, puisque autour de moi tous les groupes ils en faisaient, donc on allait se marcher dessus.
Pas d'argot.
Hein, pas d'argot, du verlan un peu, mais bon, de quoi souffrait le rap de stigmatisation? C'est pas de la musique, ça va pas durer. Et donc, un des objectifs, quand même, c'était de faire en sorte que ce que vous dites, c'est pas entièrement vrai. Ah non, ça peut aussi être autre chose. Et donc, moi, j'ai fait ça pendant assez longtemps.
Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à gamme fine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline.
Alain Souchon, qu'est-ce que vous en pensez d'M.C. Solar?
Ah ben, M.C. Solar, il est arrivé planter une nouvelle façon de raconter des histoires en musique. Beaucoup plus rythmique et beaucoup plus dansante. Et très important pour tous les gens qui ne sont pas des anciens Gaulois. Ça leur donne du courage, ça les épanouit. Et il a été formidable pour ça, M.C. Solar. Ah oui, oui. Et puis, avec des astuces de langage, c'était comment son gros tube?
Oh, il y en a plusieurs. Il y a Nouveau Western.
Le Nouveau
il y a
Western.
Qui sème le vent, top. Récolte le tempo. Il y a Bouge de là.
Ah,
il y a...
Bouge de là. Non, mais c'est formidable.
Il y a Caroline.
Ah oui, Caroline.
Caroline.
Oui, j'adore, bien sûr.
C'est quoi un tube?
C'est
selon
un
vous.
Truc qui. C'est bouleversant, vous savez, d'être dans sa chambre avec sa guitare ou avec son copain qui joue de la guitare et de faire une chanson puis qu'elle s'envole comme ça dans les ondes et que tout le monde la connaisse et qu'on vous écrive de Los Angeles en disant « J'entends Full Sentimental dans les rues de Los Angeles ». Vous êtes sidérés. Oh, vous dites vraiment c'est quelle chance j'ai, comme c'est merveilleux. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel.
Comment vous l'avez écrite, cette chanson?
J'ai toujours été très impressionné par l'idée du bonheur. Et comme c'est abstrait, le bonheur, comme c'est curieux. Parce que moi, le bonheur, c'est de marcher dans une forêt et puis de m'asseoir au pied d'un arbre, dans le rayon de soleil. C'est de voir ma petite fille qui est née il n'y a pas longtemps et de la serrer dans mes bras et tout. C'est le bonheur total. Et... quand on parle du bonheur dans les médias, on nous transmet une image de gens qui se précipitent pour acheter des trucs quand c'est les soldes, comme une folie. Que je me dis, mais où on est là? Qu'est-ce que c'est? Ça peut pas être le bonheur d'avoir trois écharpes. Donc, je fais cette chanson comme ça, par rapport à ça. La vie en rose, le rose qu'on nous propose d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autres choses.
Allez, on nous fait croire
bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Vous avez, on le sait, très souvent travaillé avec Laurent Voulzy.
Ah oui.
Et sur cette chanson, Foule Sentimentale, c'est vous le compositeur.
Mais oui.
Dans quelle position ça vous met, tout d'un coup, de composer? Et comment vous avez travaillé spécifiquement sur cette chanson?
J'ai toujours fait des chansons, paroles et musique, mais elles étaient extrêmement mauvaises. Il y a beaucoup de chance dans le fait de tourner des accords, de jouer de la guitare toute la journée. Puis quelquefois, on en avait parlé longuement avec Jean-Jacques Goldman, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous faites des choses banales sans arrêt. Puis d'un seul coup, vous tombez sur un petit truc, il y a trois accords. Ah putain, c'est... Et c'est là, et c'est un coup de chance. Ah ouais, c'est bien et tout. Et c'est de la chance, ça compte beaucoup la chance. Alors je me souviens, j'avais fait ça, puis cette tournerie d'accords. Oh, c'est bien quand on, puis qu'on revienne sans arrêt, que ce soit lancinant comme ça, c'est bien.
C'est votre piano, là, Chili Gonzalez?
C'est le piano du producteur de Souchon des années 80-90, Michel Curiot. Souchon fait partie des chansonniers paroliers, je dirais littéraires. Ça veut dire qu'il y a un vrai parti pris dans l'interprétation. Pour moi, c'est dans une ligne de Aznavour, de Brassens, des vrais storytellers, comme on dit en anglais, des raconteurs.
Il y a eu un album de reprise, Chili Gonzalez, qui s'intitule Souchon dans l'air, dans lequel vous reprenez Foule Sentimentale. Pourquoi ce titre?
Je suis pas un chanteur, pas vraiment. Des fois je chante, des fois je rappe, mais je suis principalement pianiste, arrangeur, compositeur. Et Foule Sentimentale, je me suis dit, si je prends ce morceau tellement connu et je le joue en instrumental, ben, tout le monde va le reconnaître tout de suite. Ça existe un peu déjà dans l'inconscient collectif des Français. Et ça, j'adore faire. J'adore quand j'ai droit à changer le style, changer l'esthétisme d'un morceau sans que le morceau perde son âme. Donc, ce que je fais, je joue les accords avec le moins de débit rythmique possible. Comme ça, je vais me rendre compte qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le morceau. Et du coup, on joue la mélodie maintenant avec la main droite. Même sans les paroles, sans rythme, sans émotion, sans stylisme, on peut évaluer la qualité d'une mélodie. Ce que moi j'entends dans cette mélodie, c'est un storytelling. Ça veut dire qu'il y a du répétition, mais après, il y a du variation. Donc, c'est entraînant, ce qui donne le catchy, ce qui donne le pop, mais il y a quand même des variations qui font qu'on se sent obligé à écouter la fin de l'histoire. Donc, on est surpris et en même temps, on est guidé par le débit de rythme de la mélodie. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Peu importe les notes choisies, mais déjà ce rythme est entraînant. Et donc, ça crée une espèce de tension entre la répétition et la surprise. Ça commence assez haut. On le répète. Et là, on commence pareil pour la troisième phrase, mais il y a la variation. Donc, ça fait une espèce de deuxième opinion. Et là, une réponse finale. Là, je le mets ensemble maintenant avec les accords. Et du coup, Full Sentimental, qui a ce esthétisme un peu des années 80 dans son son, dans sa production, ben, moi j'essaie de le réimaginer un peu comme un tango sud-américain joué avec un quator à cordes classique. Donc là, on mélange plein de codes, mais le morceau et la mélodie est assez forte pour qu'on dit tout de suite c'est Full Sentimental, même si le morceau est habillé autrement qu'on a l'habitude, et surtout sans ses paroles.
Le rôle qu'on nous propose, din, din, din. Ça fait partie de la chanson de Jin Jin. Il se dégage de ses cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner. Faut déconner alors qu'on est. Oh, full sentimental.
Avec soif d'idéal.
Elle est gay cette chanson.
Attirée par les étoiles.
Si on en revient à cet album, donc C'est déjà ça, que vous avez enregistré à l'époque avec un tout jeune ingénieur du son qui depuis est devenu un grand réalisateur artistique,
oui.
Je pense à Renaud Létang. Quelle a été votre collaboration avec lui? Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est quoi le rôle d'un réalisateur artistique?
Ah bah c'est pas un réalisateur artistique comme tous. C'est-à-dire que très facilement il prenait sa guitare. Par exemple, une guitare électrique pas branchée. Et puis, il me disait, non, mais regarde. Et puis, il jouait, il faisait... On ferait un truc comme ça. Alors, il était autant arrangeur que preneur de son, que constructeur de sonorité. Et alors, il est très riche, quoi. Et j'aimais bien travailler avec lui. Et puis, en plus, le mec, il est sympa.
Je chante un baiser. Je chante un baiser osé. Sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée, je chante un baiser.
Si je peux raconter une anecdote qui était assez marrante, c'est que c'est pas Alain Souchon qui m'a choisi pour faire l'album, c'est son réalisateur de l'époque qui s'appelle Michel Curieux.
Renaud Létang.
Et la première fois qu'Alain m'a vu, il m'a demandé où était l'ingénieur du son. Et j'étais obligé de lui dire que c'était moi. Et il est parti furieux voir le producteur en disant « Je peux pas travailler avec mon fils, c'est pas possible. »
Donc vous aviez l'âge de son fils.
C'est ça, j'avais l'âge de son fils. Et bon, les débuts ont été très 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 stressants pour moi. Et c'est devenu un peu au fil des années, parce qu'on a travaillé pendant plus de 20 ans ensemble. C'est vraiment devenu comme un oncle à qui je pouvais parler de mes problèmes et tout ça. Et donc, évidemment, pour moi, comme c'était mon premier album, j'ai eu la chance de pouvoir... vivre la création de ce morceau et donc de pouvoir ressentir le moment où on commence à toucher du doigt un tube, quand on sent que le morceau potentiellement peut être un morceau important de l'artiste. Et c'est quelque chose un peu d'inexplicable que tout le monde ressent au moment de la session.
Cet album, je le rappelle, il s'intitule donc C'est déjà ça, sorti en 93.
Cet album, il est spécial aussi parce que tous les morceaux quasiment sont sortis en single et ont été des tubes en soi. Full Sentimental, Sous les jupes des filles, L'amour à la machine, ou C'est déjà ça. Dans tous les tubes, ce qui est, je crois, le dénominateur commun, vraiment le plus important, c'est la justesse de l'émotion. Après, vous êtes en accord avec cette émotion ou pas, mais l'émotion qui se dégage, c'est quelque chose de clair. Et Full Sentimental, par exemple, c'est comme un hymne, ou C'est déjà ça. C'est des tubes sociétaux, ça veut dire ce que ça dégage émotionnellement, le pouvoir de projection, le pouvoir d'identification. C'est des morceaux qui réunissent tout le monde.
Oh, oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.
Évidemment, pour Alain en particulier, le texte et le choix des mots a une portée tellement importante par sa poésie qui s'accumule à la musique et qui en fait vraiment un succès sociétal. Même le choix de la prod sur Full Sentimental, la batterie, elle est très forte si on écoute bien. C'est très dynamique. Donc comme j'étais jeune ingénieur du son, ce que j'aimais, c'était les trucs avec les batteries fortes et les trucs secs. J'aimais pas trop les réverbes et tout ça. Et donc, comparé à ce qui se faisait à l'époque, cet album, tout d'un coup, il sonnait très cru et franc comparé à la tonne d'effets qu'on mettait à l'époque. Et je crois que ça a aussi contribué au message et aussi à avoir un nouveau son.
Dans quel état d'esprit faut que vous soyez pour écrire une chanson, Alain Souchon ?
Il faut que je sois bien concentré sur ce que je veux faire, sur ce que... En fait, c'est pas comme ça. C'est comme les gens qui écrivent des romans. C'est-à-dire que vous avez l'idée de faire une chanson. Vous avez votre idée. Ou votre première phrase qui vous amuse parce qu'elle sonne bien. Ou... Et puis après, elle vous turlupine tout le temps. Vous n'êtes pas assis à un bureau avec un crayon en disant « bon, je vais faire ma chanson ». Vous êtes avec des amis en train de dîner, et puis d'un seul coup, vous vous dites, oh, mais après cette phrase, je disais ça, et tout, vous voyez. Et puis hop, après, vous reprenez la conversation, mais c'est vrai, hein, c'est soit en marchant dans la forêt, soit en sortant du cinéma, ou en toute façon, ça vous habite toute la vie, et puis après, vous notez. Et les phrases notées, vous en faites d'autres après parce qu'elles sonnent pareil, ou pour trouver la rime, ou pour.
Comment vous travaillez, vous, avec un petit carnet dans votre poche?
Ça peut être comme ça, mais c'est surtout la mémoire. Vous trouvez une phrase, puis vous la gardez, puis quand vous rentrez chez vous, vous la notez. Quand on fait une chanson et qu'elle s'ajuste bien à des paroles que vous avez faites, ben après, vous passez une bonne soirée. Vous mangez, vous buvez trop, vous sans doute, parce que ça rend heureux.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, laine du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris vient à ses cris à la trompette, rive gauche à Paris, adieu.
C'est une très belle anecdote. Quand on a été élu chanson de l'année,
Magie de Cherfi,
on était en concurrence avec Souchon qui chantait Rive Gauche. Bon, Souchon, évidemment, c'est un dieu planétaire pour moi. Interplanétaire, pardon. Je vois arriver avec cette chanson, je dis, ça c'est un bijou. Nous, on est un étal de boucher, quoi. Et c'est nous les vainqueurs. Et j'ai trouvé ça offensant au possible. En fait, vous avez là une véritable chanson avec un très beau texte, une très belle mélodie. Nous, on fait remuer les popotins, ok, pour les mariages, toutes les fêtes de famille et en boîte de nuit. Et donc, j'ai eu ce malaise-là.
Tomber la chemise, c'est devenu un succès populaire juste un an après la victoire de la Coupe du Monde avec une équipe Black Blanc Beurre en 1998.
Barbara Lebrun, historienne de la chanson et maître de conférences à l'université de Manchester.
On est peut-être encore dans le sillage de cette effervescence pour la notion de métissage. Une espèce d'enthousiasme national pour l'idée que ça y est, on a abouti, recomposé la société française en un modèle multiculturel et que tout va bien, le racisme c'est fini, le FN ne passera pas. Et quelque part aussi célébrer un groupe de Toulouse dont les trois chanteurs principaux sont maghrébins, Magie de Cherfi et les frères Amokrane sont d'origine algérienne. C'est aussi en 98-99 une manière de continuer à célébrer cette nouvelle vision de la France, une vision beaucoup plus heureuse dans la diversité et qui arrive justement à réconcilier les différences avec un consensus où les différences s'intègrent dans le consensus et font partie de la culture française.
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang.
Zelda avait tout à fait son prestige de gauche, voire d'extrême gauche. Et ce prestige s'écroule, selon certaines personnes, dès lors qu'ils obtiennent un gros succès populaire avec une chanson pas du tout politisée.
Si on rentre un peu ensemble, Magie de Cherfi, dans la cuisine de l'écriture, comment vous écrivez des chansons, vous ? Aujourd'hui, vous consacrez à la littérature. C'est différent d'écrire une chanson que d'écrire un roman ou...
Oui, pour la littérature, il faut prendre son temps. Il faut décortiquer une pièce quand on y entre, décortiquer un personnage, son physique, sa psychologie, alors qu'une chanson, il faut qu'elle soit synthétique. Donc il faut trouver des formules qui résument des mots, des situations. Alors, le texte de « Tomber la chemise », tous les enfants de ma cité, et même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et des jolies filles, des têtes d'acné, en un mot, la famille, sont là. Quand vous parlez de la cité, on a souvent le préjugé de quelque chose de négatif. Et là, en une phrase, faire entrer l'idée de l'universel. Oui, tous les enfants de mon quartier, et même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, dès qu'ils ne voulaient pas payer l'entrée, 30 balles. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, quel que soit notre rang social, nos couleurs de peau ou nos origines, la piste de danse peut être le terrain idéal à la fraternité. Alors, évidemment, dit comme ça, c'est... la chanson le permet.
Vous avez eu des pères en chanson. Je sais que vous aimez beaucoup Brassens, que vous avez repris Pierre Perret. Est-ce que ça a été comme ça des exemples qui sont venus jalonner l'écriture de chansons?
Oui, complètement. D'ailleurs, je pensais de manière plus intime à Rachida de Quart de Séjour. Parce que quand je l'ai vu lui sur scène, c'est là que j'ai cru que je pouvais le faire. Parce que je vois ce maghrébin chantant en arabe. Et moi, je me disais, mais pour plaire aux Français, il faut chanter en français. Et je m'échinais à utiliser toutes sortes de conjugaisons d'imparfaits du subjonctif pour prouver que nous, les Arabes, étions de bons Français. Et j'avais trouvé extraordinaire que lui chante en arabe parce qu'il était Français et que lui n'avait pas besoin de le prouver. Donc de le voir lui m'a permis à moi de m'envisager sur scène. Après, quand vous devez affiner votre style, vous avez trois grands maîtres qui étaient Brel, Brassens, Ferré. Puis dans mon adolescence, Higelin, Lavilliers, Renaud. Puis après, des groupes comme les Clash, parce qu'ils étaient à la fois politiques, mais à la fois reggae, rock, ska. Donc ils avaient en eux une espèce d'universalité, quoi. Quelque chose de sans frontières qui nous a beaucoup servi d'exemple stylistiquement. Si j'avais été le grand chef de la troupe, on aurait basculé dans de l'acoustique Brello, Brassensienne. Puis il y avait Pascal qui était le guitariste, qui était Clash, Rolling Stone. Donc il fallait des guitares qui aient de la tenue. Joël qui était McCartney, voulait nous apporter le mélodieux des Beatles. Puis j'avais envie de musique maghrébine parce que il me semblait que si je ne le faisais pas, je ne m'appartenais pas en entier à mon identité. Il fallait de la musique maghrébine, des couleurs. D'où mon père m'a dit. On a fait quelques visites orientales, comme ça. Et donc, voilà, c'était comment mêler Brassens, Clash, les Rolling Stones, les Beatles et Bob Marley, puisqu'à Kim et Mousse, c'était Jackson et Bob Marley, la funky new-yorkaise et le reggae des Caraïbes.
Est-ce que vous attendiez à ce que ce titre-là, « Tomber la chemise », devienne un tube ?
J'ai pas de recette spécifique du tube, mais... En théorie, tous les ingrédients étaient là pour en faire un tube. On avait quand même l'idée de l'efficacité live. Il fallait faire danser les gens. Et je me rappelle très bien que dans ma tête, c'était... quelque chose qui avait à la fois attrait au reggae, mais en même temps au dancehall. Donc on avait le riff au niveau des cuivres, un refrain qui tue, avec une grosse caisse comme ça, très moelleuse, qui donne envie de se remuer le popotin. Et on est emporté par un même mouvement de joie et de jeunesse.
Et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé dans ce morceau, à votre avis, aujourd'hui, a posteriori ?
Je crois que c'est quelque chose d'assez tribal, d'assez animal. Moi, j'ai souvent comparé la chemise à la danse des canards, parce que je le voyais bien à l'attitude qu'avaient les gens quand ils m'abordaient. C'était « je suis parti en vrille ». Et j'ai souvent eu le geste du débraillage. Les gens faisaient le geste d'ouvrir la chemise, je me suis mis à nu, dans le sens de « on se lâche ». Alors que pour moi, tomber la chemise, c'était se redresser les manches. Et je me suis rendu compte que le rythme de la musique l'avait effacé. Et dans la chanson, ce texte n'existe plus. Il a perdu son sens sans que je m'en aperçoive.
Est-ce que pour vous, ça pouvait s'apparenter à ce qu'ont vécu vos cousins marseillais d'Ayam avec Je danse le Mia?
Oui, complètement.
Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia.
Il y a très longtemps, on avait fait leur première partie. Et j'ai vu un public dormir pendant 45 minutes face à Ayam. Et tout à coup, se réveiller au moment du Mia. Et c'est ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'à partir de la chemise, les gens n'ont plus attendu que ce titre. On attaquait des zéniths de 5-6 000 personnes, mais il y en avait 1000 pour Zebda et 4 000 pour la chemise. Et ces gens roupillaient en attendant la chemise. Et donc ce qu'on a appelé le succès de Zebda, c'était quand même beaucoup de gens venus écouter la chemise, avec force, enfants, neveux et grands-parents. Et donc ça donnait l'illusion du succès, mais c'est comme un mensonge. On vient pas pour le groupe, on vient pour un titre. Et là, j'ai compris que ce titre allait signer notre arrêt de mort.
Merci.
Nous, on a été l'auteur d'un seul tube, mais d'une histoire magnifique. À défaut d'avoir eu de grands titres qui infestaient les radios, on a eu une histoire humaine unique. Voilà, parce qu'elle s'est souciée du chant, elle s'est souciée du sens, du fond, de la forme. Elle s'est souciée de ne pas être ridicule, de laisser une trace sensible, humaniste et universelle.
Enzo, comment est entrée dans votre vie la chanson « Juste quelqu'un de bien » en 1994, donc sur l'album 2 ?
J'avais vu Kent en concert, en solo, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était un auteur. Nous nous connaissions parce qu'il était dans un groupe à l'époque où moi j'étais aussi dans un groupe. On était tous les deux issus de la mouvance du rock français. Lui à travers Starshooter et moi à travers Lily Drop. Et quand il a fait cette carrière solo, j'ai découvert un autre homme. Et moi, j'étais avide de rencontrer des auteurs. J'écrivais quelques textes, mais j'ai jamais eu beaucoup de facilité pour écrire. J'ai tellement d'admiration pour les auteurs, les romanciers, les poètes, que j'avoue que j'ai toujours eu du mal à accepter ma propre écriture pour oser monter sur une scène, lui prendre au public du temps. J'avais envie d'avoir des chansons qui étaient des fulgurances pour moi, dont je pouvais être fière, que je pouvais incarner. C'était pas très grave de pas les avoir écrites. C'est peut-être ça l'avantage d'être un interprète, c'est qu'on n'est pas condamné à ce qu'on est capable de générer soi-même, mais on peut choisir.
Kent, est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous avez écrit la chanson « Juste quelqu'un de bien » ?
Elle m'est venue en fait parce qu'à l'époque, ben, j'étais très chanson française et je me nourrissais du répertoire, de l'ambiance, des chansons des années 50, 60. Il y a une chanson que j'adore de cette époque, c'était « À bicyclette ».
Chanson écrite par Pierre Barou, composée par Francis Lai.
C'est ça. J'aime vraiment cette chanson, elle me met particulièrement en joie et j'avais envie de faire un équivalent en quelque sorte.
quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette.
Donc j'avais cette rythmique en tête qui est à la fois rapide et légère, comme ça, et puis avec l'idée d'une mélodie qui survole la rythmique. Et puis sont venus les premiers mots, debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Et à partir de là, j'ai construit la chanson, les couplets et refrains. Et puis, j'ai pris la guitare et j'ai commencé à chercher des accords qui collent dessus. À l'époque, je travaillais beaucoup avec Jacques Bastello, qui était mon alter ego musical. Donc, on a maquetté la chanson chez lui. On a trouvé justement toute cette rythmique. On a fait un arrangement, en quelque sorte.
Un peu jazzy.
Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. Et j'ai eu Enzo au téléphone, qui me disait « Je cherche des nouvelles chansons pour mon prochain album. Est-ce que tu en as ?» Je dis, ça tombe bien, je suis en train d'en faire en ce moment, notamment une là qui pourrait bien aller pour toi.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change.
Et j'ai oublié la chanson, parce qu'il s'est passé plusieurs semaines, puis plusieurs mois. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de la maison de disques d'Enzo. C'était Bertrand Lamblot de BMG qui me dit, voilà, on est en studio en ce moment, on vient de finir la chanson, on voudrait que tu viennes l'écouter parce qu'on pense que c'est un single, mais elle est trop longue, il faudrait couper dedans et on ne peut pas couper sans ton avis, évidemment. Je suis allé tout de suite au studio et en chemin, je me disais, waouh, un single, super. Quelle bonne surprise.
Un tube en puissance.
Oui, quand on pense single, déjà, ça veut dire qu'une chanson est en avant. Et puis voilà, donc ça met du beurre dans les épinards, on va dire. Et puis, je suis arrivé en studio. Il y avait François Bréant, l'arrangeur. Il y avait Bertrand Lamblot, Enzo qui étaient là. Et je tombe, raide dingue de la chanson.
Cette chanson, elle commence au vibraphone.
C'est ça, ouais. Avec cette rythmique derrière, comme ça. Puis la voix d'Enzo arrive, et là, nickel, quoi. Franchement, elle la portait, mais à merveille. Et donc, la chanson passe, et là, je me retourne, je dis, mais c'est formidable, c'est vraiment super, quel beau travail, mais je ne sais pas où couper, parce que je n'ai pas vu passer les 4 minutes et quelques. Alors tout le monde se regarde un peu comme ça, ils disent, on ne coupe pas, alors d'accord.
Avec l'idée derrière que finalement une chanson qui marche à la radio, elle doit faire une durée donnée qui est de moins de 4 minutes ou de 3 minutes, 3 minutes 30.
C'est ça. Et la chanson est quand même sortie en single. Il y a eu ce clip qui était très beau, où on voit Enzo en décapotable et tout, et ambiance années 60. Et je crois qu'au début, elle n'accrochait pas la chanson au moment où elle est sortie. Et l'été est arrivé et les gens ont accroché. Et c'était une belle surprise, surtout parce qu'elle marchait sans concession. Je crois que c'est parce que les gens avaient besoin d'entendre quelque chose qui les dépayse. Et c'est arrivé au bon moment. Et je pense sincèrement, et je le dis à chaque fois, que c'est parce que Enzo l'a chanté. C'est elle qui l'a créé, comme on disait avant. Souvent, on pense que c'est un interprète, c'est un artiste mineur, parce qu'il ne compose pas ou il n'écrit pas de paroles. C'est faux. Déjà, interpréter brillamment une chanson, c'est énorme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui feraient bien de filer leurs chansons des interprètes plutôt que les interpréter.
Juste quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien.
Enzo, est-ce que vous pourriez me parler de votre voix? Parce que finalement, quand on est interprète, c'est ça dont il s'agit. Trouver l'alchimie entre une écriture et une voix qui l'incarne.
C'est vrai que la voix est un bon passeur. Ça fait partie de l'équilibre d'une chanson. C'est vrai que mon identité vocale, c'est une signature, on reconnaît. Après, il y a aussi la manière de faire, qu'on peut appeler l'interprétation. C'est le ressenti ou le style qu'on adopte ou sa manière de faire passer le texte et de se mettre en retrait ou pas, si on choisit la musicalité ou le sens ou l'émotion ou son énergie. Sur Juste quelqu'un de bien, j'étais très débutante, j'avais pas confiance en moi. La confiance et le plaisir sont vraiment venus plus tard et certainement le succès de Juste quelqu'un de bien a confirmé ma manière de prendre les choses et de choisir les chansons. J'ai peut-être manqué pour faire une carrière plus remarquable d'opportunisme, mais j'ai toujours fonctionné par amour, par ressenti. apparemment parce que j'étais pas une interprète sans doute très extravertie, j'ai pu faire croire à ces paroles, à une quête personnelle de s'attacher à faire le mieux qu'on peut chaque jour. Je pense que c'est vraiment une super manière de prendre les choses. Et ce texte-là y invite, réconforte sur le fait que ça peut être largement suffisant. Et je crois que c'est ça qui a beaucoup plu. Je crois qu'elle a été un succès aussi parce qu'elle a eu le temps de grandir. Elle a mis 9 mois et je crois que les gens ont eu le temps de l'entendre et de la réentendre et de l'aimer, en fait, de l'apprivoiser, d'être apprivoisé par elle.
Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale.
C'est quoi un tube pour vous, Kent ?
Pour moi, c'est principalement une chanson où les gens se retrouvent. Alors, aussi bien par les paroles que par la musique, mais la musique est importante, la mélodie. Et souvent, en fait, c'est des mélodies qui rappellent autre chose. En fait, les gens sont en sécurité sur une route balisée, comme partout dans la vie. Et un tube, c'est ça. On s'en rappelle facilement parce qu'on l'a déjà mémorisé avant. Je dis ça, et puis je peux aussi dire le contraire. Un tube, c'est peut être aussi un effet de surprise, quelque chose qu'on n'a jamais entendu, et qui fait qu'on a envie de le réentendre parce que c'est surprenant.
Comme des gens qui parlent et qui doutent, et trop delà des apparences. Juste quelqu'un de bien.
Vous la chantez encore de temps en temps aujourd'hui, cette chanson, Enzo Enzo ?
Je chante cette chanson tout le temps, à chacun de mes concerts, même quand je fais les concerts de jazz, elle a toujours été adaptée. Mais je ne me suis jamais lassée de la chanter. C'est une chanson que je suis fière de porter et qui m'a toujours nourrie.
Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
Vous pourriez m'entonner un petit passage ?
Vous voulez un bout de couplet ou un bout de refrain ?
À vous de choisir.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture, dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur.
Georges Beau, vous avez accompagné Bernard Lavilliers pendant une dizaine d'années au clavier, avant de devenir l'un de ses arrangeurs et réalisateurs. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur votre collaboration pour Les Mains d'Or en 2001 ?
On travaillait dans un studio qui s'appelait ICP, qui est un magnifique studio à Bruxelles, où on a un confort absolument incroyable de travail. Il y avait une ambiance exceptionnelle là-bas. On enregistrait, vous aviez Nougaro à un étage, Lavilliers à un autre, ou Bachung un peu plus loin. On a d'excellents souvenirs. On avait enregistré tout l'album et il y avait un titre, c'était Les Mains d'Or, pour lequel on n'était pas encore convaincu qu'on tenait la définition exacte du titre, la direction surtout, parce que on avait une batterie très forte qui prenait beaucoup de place et ça avait tendance à finalement submerger la voix et personne n'était complètement satisfait de ça. Là, Bernard m'a dit, il m'a pris dans un coin, il m'a dit « J'aimerais qu'on reprenne ce titre-là chez toi à Toulouse, on repart de presque rien, de deux éléments, et trouve une idée pour nous faire une musique plus simple et plus en phase avec ce que j'écris. » Et c'est ce que j'ai cherché. On avait deux éléments qui nous plaisaient, en particulier un violon, qu'on avait demandé à Eric Slabiak, voilà. Et on a gardé aussi une guitare de Marco Papazian, qui était son guitariste de l'époque. Et on a redémarré ça dans le petit studio dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Donc vous partez de ces deux premiers ingrédients, un peu comme un chef cuistot.
C'est ça.
Et là, vous rajoutez quoi dans la tambouille ?
Moi, j'ai besoin d'un peu de rythmique. Et je demande à Mahu de faire deux pistes de conga.
Alors Mahu qui est aussi le percussionniste d'Igelin.
Exactement. Alors par exemple, voilà, une partie de Mahu, c'est celle-ci. C'est une partie très simple. Moi, ça me suffisait pour rêver à la suite. Et donc l'idée, là, ça a été de contacter les amis, les Famoustés, Françoise avec un tambourin et Rita avec un petit accordéon. Alors, c'est un rythme assez spécial qui est un rythme de forró. C'est une musique assez populaire du nord-est du Brésil et on pensait que ça mettait bien en valeur les paroles de Bernard. Et à ça, va se rajouter les petites perles de Françoise. Elle nous fait un shaker et un triangle. Voilà, ce sont que des éléments tout simples. D'ailleurs, il faut signaler que dans le morceau, il y a très peu de pistes. C'est ce qui fait la légèreté de ce morceau. Il n'y a pas de batterie, il n'y a que des percussions. Une guitare de Bernard, d'ailleurs, que Bernard a fait du début à la fin, que je vous fais écouter là, qui est le rythme de base, en fait, du morceau. C'est son balancement très, très particulier, qui lui est vraiment propre, et qui nous fait tout le morceau. Disons que moi, mon travail, c'est de combiner les sons et de bien les combiner. Et je crois que là, ça a été réussi. Cette chanson, elle passe bien partout. C'est-à-dire que vous pouvez l'écouter dans un café, dans un haut-parleur nul qui passe au plafond. Vous pouvez l'écouter sur une belle écoute. Elle passe toujours bien. C'est très difficile à faire. Et c'est le cas de cette chanson.
Les musiques que j'aime, moi, enfin je fais des balades aussi, elles se dansent souvent.
Bernard Lavillier.
Donc quand je fais les rock'n'roll, ils se dansent. Bah évidemment, les musiques latines, hein, par essence même, la zigane ou le tango, mais, je pense qu'il y a quelque chose de physique, de sensuel. Et dans les mots, je peux chanter des trucs très très sérieux comme les mains d'or, mais c'est joyeux. Je plombe pas en faisant des accords terriblement hard rockeux dessus. Parce que ça ferait quand même double emploi et ça serait trop wagnérien, quoi. Je veux dire, c'est travailler encore, avec un tempo latino. Ça raconte ce que ça a raconté, mais ça passe mieux. Les gens dansent là-dessus, mais ils savent très bien ce que je dis. Hein. Ça libère le corps. Moi, je pense que quand on a le corps libéré, on entend mieux les mots. Sensuel et cafardeux.
Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et marron.
Est-ce que vous faites beaucoup de prises en studio?
Non. Non, non. Non, parce que je fais en général une ou deux prises.
Donc vous vous chauffez?
La troisième, j'ai la voix chaude. Je rentre dans l'interprétation avec plus de... Comment appeler ça? Moi, je dirais humeur. C'est-à-dire que tout à coup, on fait une prise et la chanson est là. Bon, alors au bout de 3-4 fois, Georges Boulle me dit, va boire un café, je fais le best-of. C'est-à-dire, il prend le meilleur de tout.
De toutes les prises.
Il me fait écouter et j'en refais une. Normalement, après, c'est fini. Parce qu'il ne faut pas trop segmenter, saucissonner une chanson. Il manque la moelle après. Il faut quand même qu'il y ait d'émotion du début à la fin qui aille avec l'histoire qu'on raconte.
Acier rouge et main d'or.
C'est ce qui est terrible en studio souvent. Quand j'ai pas le gros Georges Beau en face de moi avec sa bonne tête,
votre arrangeur,
je chante pour lui. Oui, parce que chanter tout seul, ben c'est déjà arrivé hein, dans des grands studios. Il y a une vitre comme ça, vous voyez personne. Vous avez toute l'impression qu'ils jouent aux courses ou qu'ils se foutent de votre gueule en face. C'est terriblement angoissant. C'est quand même plus agréable d'être dans une petite pièce avec le mec qui sait bien prendre votre voix, qui vous dit bon allez, t'en fais encore une Bernard parce que t'y es presque.
On dirait le soir. Des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier.
L'addiction, c'est important pour vous aussi?
Bah oui, parce que je trouve ça dommage qu'on comprenne pas les mots. Donc, il faut aussi écrire en fonction. Je sais pas, enfin, il y a des mots, on peut pas les chanter, c'est compliqué. Donc l'articulation va aussi avec le vers. Par exemple, Gainsbourg, qui est le roi de l'allitération, donc « J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. » J'adore. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Un grand maestro, l'écriture. Et d'articulation, parce que toujours, on comprenait tous les mots. Moi, je pense qu'un interprète, comme me disait Juliette Gréco, un interprète, il te ramène au minimum 50% de ta chanson. Bon, c'est Juliette, hein. Mais elle a raison, elle a raison. Joli môme chantée par elle. T'es toute nue sous ton poule, il y a la rue qui est ma boule, joli môme. Il y a quelque chose de provocant qu'il n'y a pas chez Léo. Il y a un côté voyeur chez Léo. Parce que c'est un homme.
Et maintenant.
Quand vous avez finalisé le mixage de ce morceau, Georges Beau, est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, quand même, on tient quelque chose là?
Quand même, oui. Moi, ce qui m'a frappé pour Les Mains d'Or, c'est la manière dont la chanson est montée en puissance depuis 20 ans. C'est au début, elle a été remarquée par l'écoute de Barclay, la maison de disques, qui a dit que c'était un des morceaux vraiment les plus intéressants de l'album. Mais au début, on ne pouvait pas parler vraiment de tube. Ça a démarré tranquillement. C'est au fil des années où cette chanson s'est imposée. Où maintenant, on va dire que cette chanson, c'est une chanson culte. C'est-à-dire que Bernard ne peut pas faire un concert sans chanter cette chanson. Les gens la reprennent. Et moi, le premier, je suis vraiment impressionné par ça. Parce que toutes les chansons, on les fait avec le même cœur. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui se passe avec le public, qui fait qu'il y a une magie qui est très difficile à définir. Un tube ou un morceau, un single, ça ne se décrète jamais.
Merci à MC Solar, Alain Souchon, Chili Gonzalez, Renaud Létang, Barbara Lebrun, Magid Cherfi, Bernard Lavillier, Georges Beau, Enzo Enzo et Kent. Prise de son, Julie Garraud, Frédéric Kérou et Georges Thau. Merci à Thomas Duterre pour sa participation. Mixage, Pierrick Charles. Merci à Fanny Leroy pour sa collaboration à l'écriture. Stagiaire, Léo de Boutigny. Documentation, Anne-Lise Signoret, attachée de production Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran. C'était Les Tubes de ma vie, troisième épisode, ma jeunesse politico-poétique. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Agnès Catou.
Ça va, vous êtes bien ?
Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il est essentiel d'en maîtriser les mots.
Guillaume Herner.
C'est pourquoi Les Matins vous propose un hors-série, un podcast où les meilleurs spécialistes de la région donnent un sens plus précis aux mots de ce conflit.
Hors-série, Les Matins de France Culture. Israël-Palestine, les mots de la guerre.
À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.